Mon époque, ma radio. 19h-20h, le magasin central de Pierre Ciankowski, c'est sur le Move.
Un livre, un disque, un film, un reste de sapin, des lambeaux de boule, un fond de mousseux, des hommes et des machines. Bienvenue dans le magasin central. Ce soir avec nous Eric Sadin, des membres d'honneur du magasin central, avec qui de Snowden à Facebook en passant par les Google Glass et Beyoncé, nous allons décrypter la société numérique qui s'est plus que jamais imposée en 2013, pas vrai Eric?
Et ô combien, et ô combien.
Avec nous également Nicolas Guyonnet et David Fez qui dans un pays normal seraient déjà en prison.
The Move, Pierre Ciankowski.
Magasin central qui commence en musique avec Kanye West, ça s'appelle I Am A God tout simplement.
Le magasin central de Pierre Ciankowski sur le Move.
C'était Kanye West dans le magasin central avec I Am A God.
19h-20h, magasin central sur le Move, avec Pierre Siankowski.
Un magasin central d'exception pour les fêtes, puisque nous sommes en direct samedi 28 décembre sur le plateau du magasin central. David Sfez et Nicolas Gunet sont avec nous et nous recevons ce soir, comme je le disais, un des membres d'honneur du magasin central. Il s'agit d'Éric Sadin qui était avec nous dès les premières émissions d'été. Éric Sadin, vous étiez venu nous parler de deux livres, La Société de l'Anticipation, un essai qui était sorti chez Inculte, et une fiction, Les Quatre Couleurs de l'Apocalypse, sorti aussi chez Inculte. Cette année, vous êtes déjà venu nous voir pour un livre qui a reçu un accueil critique absolument incroyable. Vous avez été cité par Le Monde, par Libé.
C'était un bel accueil.
Tout le monde, ça s'appelle L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde. J'aimerais, avant qu'on enchaîne sur cette émission dans laquelle on va un peu passer en revue tout ce qui s'est passé en 2013 autour de cette actualité, entre guillemets, des data, du numérique, qu'on définisse ces deux termes, l'humanité augmentée et l'administration numérique du monde. L'humanité augmentée, c'est quoi exactement, Éric Sadin ?
L'humanité augmentée, c'est le fait que de plus en plus, des systèmes dits intelligents nous assistent. Soit par les applications, soit par les grands systèmes, par exemple mis en place par IBM, soit par exemple la Google Card dont on parle beaucoup, autant que les Google Glass, mais ça c'est encore autre chose. Et c'est quoi par exemple la Google Card ? C'est des données récoltées de toutes parts, avec des radars, des capteurs de toutes parts, du traitement par traitement des données en temps réel par des processeurs extrêmement puissants, et des systèmes capables d'interpréter les situations, par exemple de juger qu'il est plus intéressant au vu d'informations extrêmement multiples, d'aller à droite, de prendre cet itinéraire, de s'arrêter, et de prendre des décisions à notre place. Donc c'est très étonnant de voir ce moment de l'histoire de l'humanité qui veut que des systèmes non seulement comprennent des situations, mais parfois et de plus en plus prennent des décisions à notre place. Ouais. D'où la notion d'humanité augmentée qui renvoie à des flux numériques capables de sentir des situations et de décider.
Et quand vous parlez d'administration du monde, ça va effectivement de notre vie quotidienne. Vous parliez des instruments qui sont les smartphones, jusqu'aux décisions qui sont prises en haut lieu par les gouvernements. Ce que vous dites aujourd'hui, Éric Sadin, c'est que dans toutes les situations, on est assisté par des machines, par des robots,
de plus en plus,
qui nous permettent, en gros, entre guillemets, de prendre la bonne décision. Après, on n'est pas toujours sûr que ce soit la bonne, mais au moins, on a toutes les données en main pour décider de ce qu'on va faire.
L'idée, quand vous dites prendre la bonne décision, l'idée, c'est généralement d'optimiser les choses. Par exemple, je passe à côté d'un magasin de chaussures, par la géolocalisation, par mes profils, je peux recevoir une alerte. Donc là, c'est optimiser la relation entre le client et des services qui sont alentour. De plus en plus, il y a une sorte de zone spatio-temporelle autour de chaque individu qui interprète ses souhaits, qui propose des choses. La deuxième chose, c'est point de vue de sécurisation. De plus en plus, on reçoit des alertes. Éviter telle zone au vu des événements qui se seront passés, au vu des historiques. Et puis la troisième chose, c'est il y a une volonté de... Alors tout ça est évidemment compliqué, complexe. L'idée, c'est aussi de fluidifier les sociétés, de faire en sorte qu'il y ait le moins de heurts possible. Par exemple, je renvoie encore à une société qui est aux avant-postes de ce qu'on évoque là, c'est IBM, qui met en place, qui s'est débarrassé de la fabrication des ordinateurs depuis 2005, et qui est que dans l'implémentation de grands systèmes dits intelligents qui visent à fluidifier les choses, par exemple, sur la consommation d'énergie. La production est évaluée en temps réel, en fonction de la consommation, distribution de l'énergie, de l'eau, tout cela par des systèmes, et les humains de plus en plus veillent sur les choses, mais agissent de moins en moins sur les actions.
C'est-à-dire, quand vous dites agissent de moins en moins, c'est que c'est l'idée de tenir compte des propositions qu'en font les machines, de prendre en compte effectivement toutes ces données qu'on a. Mais quelle est à votre avis aujourd'hui la part, si on devait estimer la part de la décision humaine dans tout ça ? Est-ce que 2013 a marqué un changement là-dedans ? Est-ce qu'on est passé d'un 50-50 à un 60-40 par exemple ?
Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ? C'est très intéressant cette question, Pierre. Je fais bien de revenir.
Oh là 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 là
on s'entend très bien.
C'est vrai qu'on est bien ici avec Éric Sadin, David Fez.
Ouais, on se met bien.
Est-ce que vous vous souvenez, là, ça date de fin 2011, début 2012, où on s'était rendu compte, il y a eu une étude faite par une boîte américaine, que la fréquentation d'Internet était de l'ordre de 50-50 entre des systèmes automatisés et des navigations par les humains. Et la question que vous posez, c'est cette part de décision. Il y a, alors c'est là, pour le coup, c'est très difficilement quantifiable, oui. Mais il y a, en tous les cas, il y a un mouvement en cours qui est le fait
qui minimise la participation de l'homme.
Qui veut que de plus en plus des systèmes, non seulement nous indiquent la situation de l'état de situations de plus en plus nombreuses, mais décide à notre place de façon de plus en plus étendue. Par exemple, le champ le plus emblématique, c'est le trading algorithmique. Hein, voilà des ce qu'on appelle des agents numériques, des robots intelligents, des robots financiers qui collectent. Là, on est dans le big data, c'est-à-dire une infinité de données d'ordre financier, mais pas seulement d'ordre politique, des événements dans le monde, météo, etc. Avec alors là des algorithmes extrêmement complexes et qui sentent les choses, hein, qui interprètent les choses à des vitesses infiniment supérieures à celles de nos esprit humain, et qui en plus prennent des décisions, mais relativement à des montants financiers qui sont les plus importants, hein, sur une année de la planète. Donc on voit bien que là, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'il y a une capacité à interpréter les situations et éventuellement à décider au plus vite, avant les autres, de façon infiniment plus rapide et parfois efficace que nos capacités cognitives le rendent possible. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui relève d'un mouvement qui est en cours et probablement en grande partie irrépressible.
Et vous parliez dans cet essai, je disais, qui avait été publié chez Inculte, la société de l'anticipation, cette propension qu'on a aujourd'hui à partir de ces data, de ces chiffres, justement à vouloir anticiper, à vouloir prévoir tout ce qui se passait. Quelle est la part de déception dans tout ça aujourd'hui ? Est-ce que, effectivement, à partir de toutes ces données dont on dispose, comment est-ce qu'on évalue ensuite, après, plus tard, la part d'erreur ? Est-ce que, en partant de là, on se dit, finalement, voilà, on a peut-être été un peu vite, on a peut-être été un peu trop prompt à prendre cette décision, alors que finalement, ça s'est passé autrement que ce que nous annonçaient les machines ?
Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que le traitement des données avec des algorithmes dits prédictifs, de plus en plus, il y a une tendance qui ne cesse de se vérifier, hein, à pouvoir saisir des mouvements en émergence, voire des phénomènes qui se réalisent. Hein. D'un point de vue, par exemple, médical, on est de plus en plus dans une médecine prédictive. Par exemple, le cancer du sein, le cas de... Comment s'appelle Angelina ?
Angelina Jolie.
Voilà, hein, qui... Hein, au nom d'une prédiction supposée, ça induit des actes au présent. Hein, par exemple, les épidémies de grippe, enfin, les exemples, je l'avais analysé dans le bouquin. Ce que je remarque, c'est que ce bouquin qui est sorti en 2011, La Société d'Anticipation, depuis, il n'y a pas, allez, on va dire, pas une journée, j'exagère, en tout cas.
Il n'y a pas une minute,
une nanoseconde, il n'y a pas une semaine sans qu'à chaque fois je vois des exemples.
C'était un livre précurseur.
Ce qu'un ami m'a dit, j'ose à peine le dire ici, mais je lui ai dit, allez, il m'a dit, il y avait quelque chose de visionnaire dans ce bouquin. De sentir à quel point nos sociétés contemporaines à la fois ambitionnent, bon ça c'est une vieille ambition anthropologique, d'anticiper le futur, mais aussi dans quelle mesure nos sociétés, nos capacités technologiques rendent cela de plus en plus possible. Et en même temps, ce que vous évoquez, il y a des trous.
Il y a l'exemple de la Grèce, par exemple.
Oui.
La Grèce qui a été, dont le FMI avait totalement surestimé l'endettement, qui s'est retrouvé dans une situation absolument terrible, alors qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a peut-être été un peu trop loin dans la prévision catastrophiste sur la Grèce, ouais, notamment.
Oui, il y a des trous. Il y a cette fameuse théorie du chaos qui veut que plus il y a un nombre de variables, plus la difficulté est importante à prédire. Par exemple, la météo, hein, on sait bien qu'au nombre, il y a tellement de variables. Bon, alors ce double mouvement, à la fois, il y a de plus en plus, il y a par exemple les commissariats prédictifs, hein, que j'évoquais dans le bouquin à l'époque, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. L'idée, c'est que selon plein de paramètres, eh bien, il y a des brigades spécialisées au vu d'événements qui doivent se passer, qui interviennent en amont de méfaits. C'est Minority Report, on l'a dit plusieurs fois.
Hein. C'est Philippe K. Dick.
Et nous sommes un peu dans ce moment anthropologique et technique qui veut que ce qu'avait imaginé de façon incroyablement extra lucide Philippe K. Dick, à la fois est actuellement en cours et à la fois est loin d'être parfait. C'est très loin d'être parfait.
David Sfez a une question pour vous, Eric Sadin.
Mais justement, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse dans le sens où si demain, par exemple, il y a un blackout à cause, je sais pas, d'une éruption solaire imprévue, est-ce que ça risque pas de mettre à mal complètement notre mode de vie quotidien ? Parce que si on se repose de plus en plus sur la technologie, finalement, on est en train de, de créer un monstre qui est en train de nous dominer.
C'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire une imprégnation des sociétés de plus en plus par la technique, et en même temps quelque chose qui va tellement vite que l'histoire humaine qui veut qu'on essaye de maîtriser les choses, il y a quelque chose comme une force technologique qui presque s'impose d'elle-même. Hein, comme disait Jacques Ellul, il y a l'auto-accroissement de la technique, c'est-à-dire la technique s'impose d'elle-même, comme s'il n'y avait plus de main humaine, hein, presque la main invisible de la technique. Et ça, ce sont des questions éthiques, juridiques, civilisationnelles. Je suppose qu'on va un peu parler de Snowden, parce que pour moi, c'est l'événement de l'année. Hein. Évidemment, notre rapport à la technique, aujourd'hui, il s'inscrit dans cette ambivalence. C'est-à-dire, il y a des choses qui apparaissent, qui sont de l'ordre du miraculeux, ça a une infinité de services. Et en même temps, il y a quelque chose, une sorte de telle imprégnation et de fragilisation de possible de nombreuses situations, voire d'émergence de situations extrêmement inquiétantes. Hein. Par exemple, le trading algorithmique, s'il y a eu un flash crack, si ça apparaît nouveau, ça peut avoir des conséquences financières extrêmement graves.
Hein. Mais surtout que les politiques n'ont pas l'air de comprendre, parce qu'ils sont toujours en retard sur tout ce qui concerne la technologie. Enfin, quand il parlait à l'époque du téléchargement, il ne savait même pas que le torrent existait ou que le streaming était se pratiquait. Donc finalement, ils sont en décalage total avec la situation qui se passe. Qui est en train de se passer.
Oui, alors en même temps, le politique se sert de la technique, hein, notamment pour prendre des décisions, notamment l'open data, hein, l'idée de plus en plus d'exposer les données, de façon à ce que ça puisse ouvrir à des applications, qui est une sorte de comme on dit aujourd'hui, de mouvement continu entre le bottom et le up bottom, etc. Ça, bon, mais en même temps, quand on dit politique, on parle de la délibération démocratique, du juridique, et là, c'est évident qu'il y a des temps de retard de plus en plus entre la puissance de la technologie, la puissance de grands groupes, par exemple de l'Internet, à imposer des choses, hein, ils vont de l'avant, hein, et le politique et le juridique, de plus en plus, subit des... Voilà, s'inscrit à l'intérieur de délais, quoi, de coups de retard. Et ça, évidemment, c'est pas sans lien avec ce qu'on a vu, l'affaire de la NSA en 2013, quoi, et qui va continuer, d'ailleurs.
Hein. Eric Sadin, on va écouter un hommage des machines aux machines par des hommes, c'est Daft Punk, Giorgio by Moroder.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
La meilleure biographie de l'année, Giorgio Moroder par Daft Punk, Giorgio by Moroder.
19h20, le magasin central de Pierre Ciankowski sur le Move.
De retour sur le plateau du magasin central avec Eric Sadin, auteur de L'Humanité Augmentée, oui, en direct, l'administration numérique semaines, en fait, hein. Du Monde, sorti aux éditions L'Échappée. Eric Sadin, on parlait avant ce morceau de Daft Punk, des lanceurs d'alerte. Alors, vous évoquiez Edward Snowden, qui a été la star de cette fin d'année, puisqu'il a fait une allocution qui a été retransmise en direct sur Channel 4, quasiment au même moment que l'allocution de la reine d'Angleterre. Edward Snowden est devenu une véritable star aujourd'hui. C'est lanceur d'alerte au même titre que Bradley Manning. Aujourd'hui, c'est les gens justement qui nous permettent de comprendre cette société du data, comment on a été pris en charge justement par le numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, Edward Snowden et Bradley Manning sont les héros modernes, les héros de 2013?
Alors, j'ai été surpris que Time Magazine a mis le pape homme de l'année. Ils ont hésité.
Ils étaient entre le pape et Ribéry.
Et Miley Cyrus aussi. Ils avaient hésité avec Miley Cyrus.
Non, c'est vrai. Et finalement, non, je crois qu'il y a un ranking et je crois qu'ils l'ont mis en deux, mais il n'est pas sur la couverture. Oui. Évidemment, homme de l'année, parce que ça n'a tenu qu'à une personne. On connaissait la NSA déjà, hein, on le connaissait que depuis une vingtaine d'années. Il y avait eu un journaliste qui s'appelle Duncan, j'ai oublié son nom, un Américain qui avait révélé un peu, parce que c'est quelque chose avec des budgets secrets, etc.
Alors pour résumer, Edward Snowden, il a appris au monde l'existence de Prism.
Alors voilà, hein, et de Prism et de l'ampleur, c'est-à-dire que d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre à la fois l'inscription du système, hein, que il a exposé l'ampleur, hein, c'est-à-dire on connaissait la NSA, mais tout le monde ignorait l'ampleur. Hein. Ouais. L'ampleur, elle est phénoménale. C'est-à-dire, en gros, c'est très simple, on peut dire ça en une formule, hein. Tout ce qui peut être collecté est collecté. Ouais. C'est très simple. Tout ce qui peut être collecté et tout ce qu'on veut collecter. C'est-à-dire, c'est les deux.
C'est les glaneurs et la glaneuse puissance 1 million.
Voilà, donc voilà. Mais ça, à ce point-là, on ne le savait pas.
Je rigole de mes blagues, j'adore.
Vous étiez surpris ou pas, Eric Sadin, quand vous avez vu ça?
Alors.
Les révélations. Est-ce que c'est conforme à ce que vous imaginiez?
C'est difficile de dire. Cette mesure-là, probablement. Parce que, alors hier, on parlait, là, David, du film de Scorsese, c'est quand même l'excès, hein, le Loup de Wall Street, c'est l'excès. La NSA 2013, et tout ce qu'ils ont fait avant, c'est l'excès. C'est-à-dire, c'est l'ubris, quoi, l'ubris grec, c'est des volumes inimaginable.
Et on sait que via Prism, on écoutait tout le monde.
Pas seulement Prism.
De David Fez à François Hollande.
Alors, c'est pas de l'écoute, hein, en plus. C'est plutôt des grilles relationnelles. Telle personne fait ça, telle personne est en relation. Et c'est que de l'alerte, hein, en réalité, c'est pas de l'écoute. Hein. On écoute que les gens qui sont suspects.
Ouais, comme David Fez.
Comme David Spez, par exemple, dont on ne dit pas qu'il vient de terminer sa sucette à l'instant.
Non, il a l'air ultra suspect.
Donc souvent on a dit...
Dit-il avec sa chemise ouverte, voilà. Qui fait en 70...
Je peux terminer.
Non, mais restez poli avec les invités.
On dit souvent, on parle souvent d'écoute, c'est pas de l'écoute. Hein, c'est la récolte de données en vue de déclencher des alertes de personnes suspectes. Et après, si. Donc c'est-à-dire telle relation, telle personne voyage en business, utilise telle chose, connaît telle personne, tel déplacement, telle voyage... Voilà, c'est la récolte de données qui crée par association, par corrélation des alertes, et quand il y a des alertes, alors on se rapproche. Mais pour arriver à se rapprocher, ce que je viens de dire, il faut récolter de toutes parts. C'est ce que, notamment dans un bouquin que j'avais écrit en 2009, publié en tout cas, qui s'appelait Surveillance Globale, chez Flammarion, j'avais parlé de l'indifférenciation. Hein. C'est-à-dire, on collecte de toutes parts. Et on a vu le volume de la collecte de toutes parts. C'est-à-dire, ça va même jusqu'au portable d'Angela Merkel, parce que c'est multifonctionnel, hein. C'est un point de vue sécuritaire, c'est un point de vue diplomatique, c'est évidemment un point de vue commercial, hein. c'est de la lutte géopolitique des données, et voilà une personne dont on a dit souvent, mais il faut le rappeler, c'est pour ça que c'est homme de l'année, le pape, il a l'air
très... Il était courageux.
Il, Mais voilà.
Extrêmement.
Extrêmement courageux. Il avait un boulot, il travaillait dans un sous-traitance, il gagnait très bien, il avait sa maison à Hawaï, il avait sa vie famille, sa bon, tout ça, semble-t-il.
Aujourd'hui, il habite à Moscou, il est supporter du Spartak.
Oui, alors voilà, ça aussi, il faudrait dire deux mots, parce qu'il y a un cynisme russe dans ça, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais une personne qui, tout simplement, c'est pour ça que moi, j'étais très sceptique sur Assange, sur Wikileaks, et là, je ne suis pas du tout sceptique. Je suis enthousiaste et même admiratif de Snowden, parce que seulement par conscience de quoi, que c'est trop, que ça excède le droit américain, que ça relève de l'illégalité, que ça peut mettre en danger la tradition démocratique américaine. Il s'est dit, eh bien, trop, c'est trop. Je récolte les documents. Et avec Greenwald, il y a eu le relais de la presse, et il a décidé d'exposer cela. Et qu'est-ce que ça nous montre aussi ? Ça nous montre à la fois la puissance du système et l'extrême fragilité. Vous vous rendez compte, c'est quand même une seule personne qui a récolté un nombre de... Autant les sas de sécurité, ils sont très faibles. Hein, je veux dire, il faut entrer dans une pièce avec vérification. Ouais. Une personne qui n'est même pas de la NSA, qui est sous-traitant, donc c'est pour vous dire, c'est le colosse au pied d'argile. Hein, et cette personne... gloire aux lanceurs d'alerte, hein, ce que n'est pas Assange. On n'a pas le temps de s'expliquer, ce que n'est pas du tout Assange. Mais là, avec Wikileaks, ce n'était pas du tout le cas. Là, c'est l'idée de la transparence absolue, de vouloir tout montrer. Non, non, là, c'est des faits, pour la plupart illégaux, qu'une personne, par conscience, décide en gros, mais finalement, il ne l'a pas foutu en l'air, mais dans un premier temps, de foutre sa vie en l'air, et d'exposer aux yeux du monde des excès menés par la première puissance économique de la planète, mais l'Europe et plein d'autres démocraties sont loin d'être en reste. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vérité NSA du monde. Dans mon prochain bouquin, je vais dire ça, parce que de plus en plus, de toute manière, quantité de d'agences de renseignement, mais aussi quantité de boîtes privées, hein, confère Google, confère Facebook, hein, s'inscrivent dans un même mouvement de collecter en vue de... Voilà, et donc, voilà, cette personne qui a eu le courage d'exposer cela et de rendre possible la divulgation de cette affaire qui a été un séisme en 2013.
Il y en a un autre qui a foutu sa vie en l'air, c'est Nicolas Guyonnet. C'est le moment de l'inventaire de Nicolas Guyonnet.
Avez-vous lu La course nue de l'écrivain argentin Diego Passarella ?
Si oui, ça m'intéresse votre système.
Connaissez-vous le Land Art ? C'est très rock. Ça a beaucoup de pieds au cul, cette société de merde.
Bonsoir Nicolas Guyonnet.
Salut. Ça va ?
Vous êtes magnifique, allez-y.
Cette semaine, les amis, on parle de trois hommes de l'ombre, d'une année qui s'achève et d'une explosion qui arrive. Et aujourd'hui, je vous parle de musique. Vous le savez, c'est la fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est l'heure du bilan, du top 100 des meilleurs albums, des meilleurs concerts, des plus beaux moments, des meilleurs duos. J'en passe et des meilleurs. 2013, c'est une année musicale assez exceptionnelle, avec notamment Random Access Memories. On en a écouté un morceau des Daft Punk. Reflector, le superbe album d'Arcade Fire.
Kanye West qu'on a écouté aussi.
Le premier album de la femme pour ceux qui aiment les paroles en français. Côté rap, vous l'avez dit, on est servi avec Drake et Nothing Was The Same, Caris et son Or Noir, ou encore Kanye West et son Yeezus.
Ou La Femme, avec ce très beau premier album.
La Femme, mais je l'ai dit.
Mais je sais, c'est pour vous embêter,
avant,
Nicolas Guyonnet.
Oh là là. C'est dit. Et l'homme de l'année, évidemment, Pierre.
Bah, c'est David Suez.
C'est David Suez, mais c'est surtout Pharrell Williams.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que David Suez n'a pas sorti le morceau Get Lucky, n'a pas sorti le morceau Happy. Voilà, évidemment. Il a fait son grand retour, Pharrell Williams. Alors, plutôt que de ressasser les palmarès, je vais vous présenter deux talents qui savent rester discrets, chacun à leur manière. Le premier est dans la sphère du rap game. Il s'appelle Sampha et on le retrouve sur un des plus beaux morceaux de 2013, The Motion de Drake. I guess that's just emotion. That's nothing more. I hear your heart hit the floor. I guess that's just emotion. It's not enough. No. Oh, I guess that's just emotion. Oh, oh. I guess that's just emotion. Plus ça va, Nicolas Guyonnet, plus vous écoutez de la musique de Lover. Je sais pas ce qui s'est passé.
Il est amoureux, il est amoureux.
Il y a peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Quel cachotier, quel romantique.
Reparlons de musique, s'il vous plaît. The Motion de Drake avec Sampha. Donc Sampha en featuring un des plus beaux morceaux de cette année 2013. Un peu passé inaperçu, malheureusement, il faut dire que Drake a une stratégie un peu particulière pour la sortie de ses morceaux. Il les poste d'abord sur Internet, sans même prévenir, pourquoi pas. Mais surtout, The Motion n'est même pas sur son dernier album. C'est juste un morceau pour le plaisir. Et pour The Motion, il a fait appel à une voix magistrale, celle de Sampha. Sampha est pianiste, producteur de musique électronique et surtout, c'est un chanteur. C'est notamment sa voix qui résonne au sein du groupe Substract, qui avait sorti un très bel album en 2011. Et vous vous en souvenez, Pierre ?
Eh oui, tout à fait.
Eh oui, voilà, merci. C'était lui. Il a sorti, il a sorti cette année son troisième EP qui s'appelle Dual. Let it all work out. Let it all work out.
tout ce love.
Bah oui, je vous rassure, il y a d'autres paroles quand même dans cette musique. J'ai pris un extrait un peu répétitif.
Indecision
sur l'EP Dual de Samfa. Dernier indice qui peut nous faire penser que ce jeune homme de 24 ans a une belle carrière devant lui. Son label, il est signé chez Young Turks, qui est aussi le label des XX et de Jamie XX. Donc. Et ça, c'est la classe. Le deuxième homme discret de 2013 nous vient de Norvège et sa musique, elle, elle vient d'ailleurs. Terrier avec Lanzarote, qu'il vient tout juste de mettre en libre écoute sur son site internet, sur son SoundCloud, évidemment Michel Houellebecq, c'est ça. Todd Terrier, c'est un DJ norvégien de son vrai nom Terrier Olsen et d'un âge inconnu, car Todd Terrier reste...
Fox Terrier, vous le connaissez?
Ah, j'en étais sûr que vous alliez me la faire.
Moi je suis comme ça, je l'ai fait,
Fantastique Mister Fox Terrier. Car Todd Terrier donc reste discret, les amateurs de musique électronique le connaissent bien, surtout depuis son morceau Inspecteur North et son clip malade dans lequel on voit un jeune homme sous influence se faire des soirées tout seul, un peu comme vous Pierre. C'était en 2012 et cette année-là, le magazine Rolling Stone le classait dans
c'est
le top 25.
C'est dommage de perdre son emploi comme ça, bêtement.
DJ, c'est une belle fin d'année. Donc le magazine Rolling Stone le classait dans le top 25 des DJ les plus influents de la planète, aux côtés, s'il vous plaît, alors attention, Todd Terrier, aux côtés de Daft Punk, de James Murphy des LCD Sound System, ou encore de Skrillex.
Ah,
bon, moins bien.
Du beau monde.
Bon, c'est sympa quand même Skrillex. Et en 2013, on le retrouve à la production d'un des meilleurs morceaux de l'album des Franz Ferdinand.
Oh.
Evil Eyes des Franz Ferdinand, donc, et sa groove, et c'est le groove de Todd Terrier.
Oh, quel groove.
Bah oui, sa groove, ouais, ça vous donne envie de danser, je le vois. Aujourd'hui, Todd Terrier continue son exploration des sonorités disco et eurodance en sortant régulièrement des EP. C'est un DJ discret, et maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est un album, un vrai. Alors, on prie pour que ça arrive. Et en attendant, si vous ne savez pas quoi faire avant la fin de l'année, il y a deux beaux talents à découvrir et à écouter, Todd Terrier et Samfa.
Merci Nicolas Guyonnet, bravo. On va écouter un autre talent de cette année 2013, c'est Woodkid et le morceau s'appelle Ghost Lights.
19h-20h, le magasin central de Pierre Ciankowski sur le Move.
C'était Woodkid dans le magasin central avec Ghost Lights.
Le magasin central de Pierre Sienkowski ouvre de 19h à 20h. Sur le Move.
Le magasin central en direct, une émission de qualité avec Éric Sadin, auteur de L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde aux éditions L'Échappée. Éric Sadin, au mois de mars 2014, on va fêter les 10 ans de Facebook. Alors en réalité, Facebook est accessible au public depuis 8 ans, mais ça fait 10 ans que Mark Zuckerberg a ouvert ce réseau social. Au départ, c'était à Harvard. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une grande partie de la population, au moins occidentale, a vu sa vie complètement modifiée par l'apparition de Facebook?
Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense surtout que les gens perdent beaucoup de temps. J'ai un rapport schizophrénique avec Facebook. Je pense que ce qui s'y passe, c'est absolument, ça a peu d'intérêt. Mais surtout, ce que je remarque, il faut analyser ce qui se joue dans Facebook. Je pense que c'est une seule chose, et c'est leur grand succès, c'est qu'ils flattent l'individu contemporain. C'est-à-dire, c'est l'individu roi, c'est l'ego qui peut, qui crée son cercle. Alors, on l'invite. Il peut, monsieur ou madame, peut refuser, accepter. Vous voyez ce que, on peut supprimer sur une mauvaise humeur des contacts, un ami. Le blacklister, des contacts, des conversations entre deux personnes sont vues depuis 2009, je crois, sur le mur. Donc des messages privés entre deux personnes, c'est tellement important et ça flatte, c'est vu par plein de monde. Il y a des rankings avec les likes, il y a des pauvres types, je plaisante, hein, qui ont deux likes sur des trucs, il y en a qui en ont 75, c'est des stars du cercle. Donc il y a vraiment quelque chose, moi j'ai un peu analysé ça de près, ça m'intéresse évidemment, c'est-à-dire c'est tout est fait pour flatter l'individu de façon à quoi? À ce qu'il revienne, à ce qu'il y ait un retour d'ego continu, et donc est-ce qu'il y ait la connaissance de ses comportements avec des postes, et donc d'exploitation commerciale la plus intense par l'entité Facebook, évidemment.
Mais quand on parle de société de l'anticipation, toutes les données que collecte Facebook, notamment, ça permet de dresser des profils quand même très précis des gens qui sont inscrits sur ces réseaux sociaux, et ça permet de profiler, et puis de savoir qui aime quoi, qui fait quoi, qui parle avec qui aime tel genre de musique et qui a vu le Loup de Wall Street.
Ah bah c'est une des plus grandes, voire d'un point de vue civil, la plus grande base de données au monde, après celle de la NSA. Hein. Mais vraiment, je pense, vous voyez par exemple en français, mais c'est pas seulement en français, la plupart des gens parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. C'est quand même d'un ridicule total.
Oui, c'est Alain Delon toute la journée.
C'est Alain Delon ou le général de Gaulle.
David Fraisse a mangé des boulettes.
Voilà, alors, ou tout alors suite, pense... Voilà. Pense ou s'habille, enfin, en général, c'est rarement.
Nicolas Guionnet a été chez le coiffeur.
Voilà.
Ça, c'est malheureusement.
Et jamais ça. Bon, alors l'idée, c'est quand même l'interface, hein, l'interface qui est faite, toute l'interface, notamment pour parler de soi à la troisième personne, pour flatter l'individu. Et en gros, on parlait de vitesse tout à l'heure. Voilà, tout le monde, en gros, je dis pas tomber dans le panneau, mais suit ça, hein, s'inscrit dans le rythme, alors que ça a des effets sociaux. On parle d'instinct grégaire, de dévoiler la vie privée. Mais je pense que c'est pas ça le plus important. C'est l'individu, c'est-à-dire c'est le petit roi. Chacun est son petit roi avec des retours d'ego continus. Et ça, je suis pas sûr que ça soit un gain formidable qu'on ait eu depuis une petite dizaine d'années.
Alors gain formidable, nous on a la livraison de la semaine de David Fraisse qui nous tend les bras. On l'écoute tout de suite.
J'avais une fou rire.
Il avait le fou rire.
Je te fais rigoler.
Ouais, vachement.
Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment c'est marrant? Dis-moi ce qui est marrant.
David Fraisse, un des héros de 2013.
Exactement. Alors, la semaine dernière, je vous parlais de Rick Ross, le 50 Cent des années 2010. Cette semaine, je vais vous parler du football et musique en m'attaquant à une légende vivante, Zinedine Zidane.
Oh là là là,
oh là, 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 là. Zinedine. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de cette chanson faite par Coé et sa bande, le fameux Zidane, il a marqué, sur l'air de Salif Keita, sur une instru de Martin Solveig. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles, je suis preneur.
On n'en a pas, David.
Pas de Salif Keita, mais Martin Solveig. Alors, si je vous parle de Zidane, c'est sans doute parce que le plus grand joueur français de tous les temps est très porté sur la chanson française, mais vraiment très porté.
Ouais.
Alors, si je vous parle de ça, c'est aussi parce que le WZ est souvent apparu dans ses reportages en train d'écouter de la variétoche et pas que dans sa chambre d'hôtel. Premier exemple, le plus connu, dans Les yeux dans les bleus, on peut voir Zidane chantonner comme il peut. On ira tous au paradis de Michel Polnareff, enfin à la version des Enfoirés.
On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit.
Alors, du coup, forcément, les enfoirés.
Aimé.
Voilà, c'est ça, exactement. Très belle imitation. Du coup, forcément, les enfoirés ont flairé le coup et l'ont invité pour qu'il vienne poser son flow sur l'album de 2001.
Oui.
Et on était très, très, très loin des chroniques de Dr. Dre sorties cette même année.
Oh oui.
À tous les recalés,
de l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les zestes du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait...
Après, c'est Thierry Lhermitte qui prend la suite. Alors, Zidane, fan de chansons françaises...
Zidane, il a pris un peu de l'Exomil, là. Il était un peu
voilà. Votre répartie aussi a pris un peu d'Exomil. Mais bon.
Exomil.
C'est pas grave, on fait pas de citations, c'est des trucs de chelou. Il y a rien d'étonnant, dès 1994, un reportage de Stade 2 consacré à ses futures stars, qui n'avait que 21 ans et qui n'était pas encore connu, démontré dans... On voyait Zidane, on peut le voir sur lina.fr, tranquillou dans sa caisse, et il s'écoute, comme quand j'étais môme, d'Eddie Mitchell.
Je suis pas comme Hitty. Je veux rester ici, ice cream et sweet home, comme quand j'étais mort.
Qu'est-ce que vous avez contre Eddie Mitchell, David?
Rien du tout, c'est de mes
très bon acteur, très bon chanteur.
D'accord. Merci Nicolas Guenet pour votre avis de ouf. Du coup, à chaque reportage sur Zidane, on peut le voir s'écouter de la chanson française. Cette fois, nous sommes dans le reportage Zidane, champion d'exception, sorti en 2007, qui revient sur la fin de carrière de Zizou. Cette fois, il fait dans le R&B à la française avec le dénommé Corneille, dont j'aimerais bien aussi avoir des nouvelles, vu qu'il a un peu disparu des
radars. Il a sorti un album, David Fez.
J'étais le seul à pas savoir, parce que tout le monde s'en fout, en fait. Zizou nous explique son rapport
violence.
À la
public.
Mais quelle violence,
Corneille.
Quelle violence, cet homme en jogging, une violence.
Si, si.
Allez-y, David Fest, continuez.
Zizou nous explique son rapport à la musique dans un style très prolixe qu'on connaît bien.
T'as toujours écouté de la musique, toi?
Ah, en bas.
Heureusement. Pas heureusement.
Ouais, rien de mieux. Serait triste la vie sans musique.
Alors, Zidane est finalement le symbole de la génération 98-2000, celle des tauliers à l'ancienne avec Sylvain Wiltorde, qu'on peut voir dans écouter Jean-Jacques Goldman dans Les yeux dans les bleus numéro 2. D'ailleurs, dans ce même reportage, on peut voir clairement que cela en peut traîner certains excès avec cette apparition de Francis Lalanne, aka Assurance Tourix, qui est venu rendre visite en Corée du Sud lors de la au bleu, lors de la Coupe des Confédérations en 2001.
La Coupe des confitures.
Vous étiez au Japon à la Coupe du Monde parce que
j'ai la Coupe des Confédérations.
Ah, mais ça c'était en 2001, mais en 2002, la Coupe du Monde Corée-Japon, catastrophique. J'étais pendant 6 mois au Japon, j'étais en résidence au Japon.
D'accord, bah très.
J'ai
très
vu Tunisie-Japon au stade d'Osaka.
Quel kiff.
Magnifique.
Alors, le chanteur engagé Francis Lalanne avait même composé une chanson pour Christian Carambeu et c'est pas facile à entendre.
Tes ancêtres vivaient heureux sur leur terre patrie, qu'un peuple venu d'autres cieux a voulu pour pays. On les a privés de leurs biens sans leur dire pourquoi.
C'est le mélange de Bob Dylan et d'une chèvre, un peu.
Exactement, voilà. C'est très bien remarqué. Alors bon, et maintenant la relève. Alors, malheureusement, ce sera pas Ribéry, il gagnera pas le Ballon d'Or, ni de Coupe du Monde, mais sauf si, miracle. Ouais. Et pourtant, Dieu seul sait que j'y crois. Du coup, il faut penser au futur, les amis, sinon, on n'est pas prêt de se faire kiffer. Alors, deux candidats peuvent postuler au poste de successeur de Zidane. Le premier, c'est Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM. Voici ce qu'il chantonne lorsqu'il est censé se plier à une tradition qui oblige les joueurs à chanter donc pour leur bizutage. À chaque fois, ils arrivent, première fois qu'ils sont réunis en groupe, ils doivent chanter une chanson pour voilà, par tradition.
C'est le bizutage, quoi.
Alors, voici le bizutage de Florian Thauvin.
Rouge noir, cop, assez Milan, je fais le bilan, plus violent que du MMA, qu'une double frappe de Benzema. Croyez quoi, me baisez-moi, je suis dans le turfu, oublie-moi, mais qui es-tu,
Pierre Sankowski. B2O, c'est
B2O. Quelle chanson?
Je suis dans le turfu, c'est sur le dernier album.
C'est sur Futur.
Assez Milan.
Assez Milan, je fais le bilan. Non, c'est pas sur le dernier album.
C'est sur Futur
2.0.
Ouais. Alors, autre successeur potentiel au poste de superstar de l'équipe de France, il s'agit de Paul Pogba, Paul le Poulpe, selon le surnom qu'on lui a donné à la Juve, qui semble pas très chanson française et aussi fan des instru-thérapies dès qu'il marque Thauvin. Pogba dédicace ses buts à un certain Caris.
Les singes viennent de sortir du zoo, armés comme à l'époque du clos, l'ange de la
Pesca.
Thérapie, donc le producteur de Booba et de Caris sur cet instrument.
Merci Nicolas Philippe Guillaume. Manœuvre 2.0. Alors, changement de génération, donc de style musical. Du coup, on risque pas de revoir un joueur des Bleus au concert des Enfoirés, comme ce fut le cas pour la dernière fois avec Ribéry en 2009. Pas de Bleus aux Enfoirés, c'est peut-être pas plus mal dans le fond. Voilà, donc rendez-vous
ça
la semaine prochaine.
Ça n'engage que vous, David Fest, comme tout ce que vous avez dit
dans
sa chronique.
Pour une petite surprise de taille, pour la semaine prochaine.
Allez, on va tout de suite écouter Chassol, ça s'appelle Versailles, et on l'aura au téléphone dans quelques secondes.
Versailles de Chassol dans le magasin central.
19h20, le magasin central de Pierre Ciankowski sur le Move.
Christophe Chassol qui est avec nous au téléphone, qui est aussi un des membres d'honneur du magasin central. Comment ça va, Christophe Chassol?
Moi, je vais bien, salut.
Ça va bien? Bonne fin d'année?
Magnifique.
Magnifique. Alors, Christophe Chassol, le 2 décembre dernier, vous avez sorti Ultrascore, qui regroupe des morceaux, pour la plupart, inédits, qu'on ne trouvait pas sur à la fois X-Piano et sur India More, qui est sorti cette année. C'était quoi ce disque exactement? C'était l'envie de rendre public des morceaux que vous aviez dans votre escarcelle?
Écoutez, je me rendais pas compte, Cyril Vessier de chez Tricatel qui a eu cette idée. Il voulait en faire une série de plusieurs Ultrascore, enfin comme ça, parce que oui, sortir des inédits. Moi, j'avais pas réalisé en fait que c'était qu'une compile en fait. C'était l'occasion de donner une autre place à des morceaux quoi aussi.
Ouais.
C'est-à-dire un autre enchaînement quoi en fait, et donc de faire exister certains morceaux autrement quoi. Des morceaux d'India More notamment qui étaient perdus dans la masse des 22 titres. Là, ils trouvent une autre existence. On les entend différemment.
Alors Christophe Chassol, on en a parlé début d'année sortie d'India More, disque que vous aviez enregistré en Inde avec des musiciens indiens, un disque, un DVD aussi. Et là, vous allez partir donc en 2014 jouer India More en Inde.
Ah oui, je pensais que vous alliez me parler du prochain film en fait.
Ah bah non, non.
Non, je pensais que vous alliez me parler de ça. Non, parce que là j'aurais pu répondre
on
va garder ça pour plus tard. on va partir 15 jours faire une tournée de 10 villes. On passe par Calcutta, Delhi, Chennai, Hyderabad, Benares,
ouais.
Où on a beaucoup filmé. Donc on est très heureux parce que les gens vont pouvoir se voir enfin. Les gens qui sont dans le film vont pouvoir se voir jouer quoi, sur grand écran. J'en suis très content.
Ça, j'imagine que ça va être un kiff phénoménal. Emmener un album, c'est une forme d'aller-retour assez incroyable. Ramener un album en Inde que vous avez commencé à enregistrer là-bas, que vous avez ensuite produit chez vous à Paris, et le ramener ensuite en Inde, et les gens vont se voir eux-mêmes en train de jouer, en train d'être leur musique mise en scène par vous, ça va être génial.
Ah, ça va être assez fantastique. Je vais peut-être essayer de filmer leur réaction, de faire filmer leur réaction quand ils se découvrent, en fait, peut-être.
Mise en abîme totale.
Total.
2014, donc Chassol en Inde, des projets pour la suite, des concerts en France, des festivals, vous avez déjà des pistes?
Oui, il y a des choses, oui, il y a des. Comme ça, là, sur le coup, là, j'ai pas les les dates, mais je sais que. Non, je sais pas si je suis censé dire un peu toutes les choses, je sais qu'on va aller faire un autre film.
Vous pouvez nous dire ce que vous voulez, Christophe.
Ah bon, d'accord.
Vous êtes le bienvenu ici.
C'est gentil, merci Pierre. On va partir aux Antilles en fait. On va partir aux Antilles filmer le carnaval déjà.
D'accord.
C'est une bonne nouvelle. Je vais aller dans la maison de ma tante. Et puis avec mon HFOP et mon AGSON. Et ça va être génial.
Bon,
on va aller à la plage. On va filmer les ratas. On va filmer le bruit de la pluie sur la tôle. On va filmer les oiseaux, filmer plein de choses comme ça, les mélodies des oiseaux, le ressac de la mer.
Bah, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, comme on dit, surtout.
Bah, justement, alors voilà, la compagnie, on sait pas si on dit faux. J'espère, on croise les doigts, j'ai essayé par le contact du Perk Bangalter.
Ah bah ouais.
Voilà, donc je sais pas, ils ont cru qu'on voulait contacter leur fils, mais non, en fait, nous, c'était la compagnie.
Le père Bangalter qui avait produit la compagnie créole.
Exactement.
Le père de Thomas Bangalter des Daft Punk.
Merci Nicolas Guionnet pour ce point info. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Christophe Chassol. On espère vous avoir à nos côtés en 2014. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente année.
Et moi aussi, je vous souhaite une belle année.
Merci d'avoir été avec nous. Éric Sadin, pour finir, dans la culture, l'apparition du numérique, de cette société justement qui prend en compte justement la vie des consommateurs, ça a changé quoi aujourd'hui? Quand on voit par exemple quelqu'un comme Beyoncé qui sort son album un matin, sans crier gare, sans aucune promotion, qui le balance comme ça sur iTunes et qui compte derrière sur ses followers Twitter et sur son réseau Facebook
pour le vendre. On se dit que ça a bien changé quand même depuis quelques années.
Bah, c'est les intermédiaires. Il y a une crise de l'intermédiaire. Hors antenne, Pierre, on parlait des magazines papier, des journaux papier, de la presse papier. Oui, il y a quelque chose de qui a tendanciellement disparaît, et puis en même temps, des grands groupes qui s'imposent et qui se développent. Il y a ce double mouvement qui est intéressant.
Et des grands artistes qui ne visent d'un statut absolument incroyable. Il suffit que Justin Bieber déclare, il y a quelques jours, qu'il arrête la musique sur son Twitter pour que ça fasse la une des journaux. Quand
alors,
même.
C'est la viralité aussi. Il y a aussi, là, ça va à une vitesse. On parlait de la vitesse des développements technologiques, la vitesse de la circulation de l'information, la réactivité des personnes. Et parfois, on peut se dire que, non pas ralentir, mais être un peu à distance de tout ça. Je pense qu'on est un peu dans une période de désenchantement relativement à Internet, au numérique. Par exemple, je pense à Jaron Lanier, je pense à Morozov, je pense à Nicolas Carr. On se rend compte que tout ça a étalé trop vite, que l'utopie des années 90 qui remonte l'esprit libertarien des Californies des années 70, eh bien quand même les grands modèles économiques se sont imposés et peut-être que il faut un peu repenser des structures ouvertes, des réappropriations. Et là, pour ça, il y a de la lutte. Je lisais quelque chose sur le Chaos Computer Club, la fête qui est à Berlin en ce moment. C'est très intéressant ce qu'ils développent en termes de réappropriation.
Est-ce qu'on peut le définir, le Chaos Computer Club?
L'idée, c'est d'abord d'être un espace physique, d'apprentissage du code, d'apprendre aux citoyens de Berlin à le code, à se réapproprier les choses, et puis en même temps essayer de peser sur des décisions politiques. Ils sont très proches des Verts, ils sont très proches du parti pirate au Land de Berlin, et l'idée, c'est un peu de se réapproprier les choses, le logiciel libre, parce que quand même, il y a, on peut se dire, quelques milliers d'ingénieurs qui imposent une sorte de vérité aujourd'hui. On parlait de Facebook, et il me semble que 2014 et après Snowden, et ce dont on a parlé, j'ose espérer que c'est un peu le moment de la conscience et de la réappropriation des principes et des systèmes par les individus, quoi, de façon plus ouverte et de façon moins imposée par des entités qui pensent prioritairement à leurs intérêts commerciaux, évidemment.
Merci Eric Sadin d'avoir été avec nous. Je rappelle L'Humanité Augmentée, l'administration numérique du monde aux éditions L'Échappée. Ne manquez pas la semaine prochaine le Magasin Central en direct le samedi de 19h à 20h. Cette émission a été réalisée par l'excellente Florence Viss.
Bravo.
Une émission qu'on pourra bien sûr réécouter sur le www.lemove.fr, une émission d'exception. Et tout de suite, on donne la parole à notre pote de Marseille, Akhenaton. Tu le sais. Ciao.